Madame l'ambassadeur, quelles ont été les différentes opportunités qui ont fait que un jour vous avez accepté de venir ici à Rome?
J'ai toujours eu un sentiment vers un monde plus juste, un monde qui est plus attentif aux nécessités des pauvres, des gens marginalisés. C'est dans cette atmosphère que j'ai grandi, dans une famille qui pense toutes de la même façon. Mon père ayant été plutôt un combattant politique, et il a payé le prix pour ça pendant le régime Nasser. Pour moi, c'était une atmosphère, une ambiance que j'ai grandi là-dedans. Et c'est pour cela que j'ai eu toujours ce sentiment vers les besoins des gens. Et j'ai voulu toujours être proche, auprès des gens et des réalités que vivent les gens dans mon pays. Mais en étudiant le droit, ça m'a donné une perspective un peu plus large, un peu plus ample. Je voulais faire l'avocat. Je voulais être avocat comme mon père. Mais j'ai un peu changé, c'est-à-dire les chemins ont un peu divergé. Je n'ai pas même commencé à faire l'avocat, juste après avoir terminé mes études à l'université. Mes professeurs ont vu que j'avais une certaine aise avec le droit international public et c'est comme cela que mes professeurs à l'université m'avaient proposé de faire une carrière qui m'aiderait à un peu évoluer. Ils ont pensé que j'avais des ambitions qui pourraient être plutôt satisfaites par une carrière de droit international public. Et c'est par là que j'ai joint la diplomatie égyptienne.
Au cours de ce parcours de diplomate, quels ont été un peu vos moments importants? Vous avez été en Égypte, à New York, à Rome.
Je dois dire que, et j'ai beaucoup de chance, d'avoir eu une carrière assez diversifiée, mais aussi qui aurait plutôt un fil conducteur, qui a toujours aidé, je ne dirais pas mes ambitions, mais mes désirs de voir un monde plus juste. Mm-hmm. C'est peut-être, la diplomatie ne serait peut-être pas l'ambiance ou le champ idéal pour réaliser un monde plus juste, mais on doit toujours essayer. Et c'est ce que je fais tous les jours.
Alors, vous avez parlé, Madame l'ambassadeur, de votre fil rouge, mais vous ne nous avez pas dit quel était ce fil rouge?
Je dirais que c'est toujours les besoins des gens. Être proche aux gens, aux réalités de notre monde et d'essayer de faire un monde meilleur, de réaliser un monde meilleur. J'ai commencé ma carrière attachée au consulat égyptien à Rome, qui n'était pas un poste qui n'attirait pas beaucoup de gens, beaucoup de diplomates, mais j'ai vu ce poste comme une première étape pour vivre un peu ce que vivent mes concitoyens à l'étranger. C'est par là que je me suis sentie attachée, liée à la façon dont les Égyptiens hors d'Égypte pensent, vivent leurs problèmes. Après, je suis rentrée en Égypte, j'ai travaillé dans le département juridique au ministère, qui est bien sûr ma spécialité, c'est-à-dire international. Et de là aussi, j'ai toujours poursuivi le même chemin, mais après, à New York, ça s'est évolué d'une manière un peu plus accentuée. J'ai pris en charge la 6e commission, qui est la commission juridique, et avec, j'ai fait le côté conceptuel de la 3e commission, qui est la commission chargée de droits de l'homme.
Quels étaient les enjeux de cette 3e commission?
Les enjeux étaient vraiment énormes, parce que une femme qui représente un pays islamique, et puis qui a aussi d'autres identités, je dirais. Une identité arabe, une autre identité copte, chrétienne, une identité aussi pharaonique. Alors, à la fin, c'était une identité égyptienne vraiment très particulière. Ça me donnait beaucoup de liberté de travailler au sein de différents groupes, avec de différentes perspectives, mais en même temps, c'était un grand défi, parce que chaque identité avait ses propres exigences. En représentant tout ça, bien sûr, ce n'était pas facile. C'était un grand enjeu, comme vous l'avez dit. En même temps, ça m'a aussi permis de voir un peu comment le monde pense et à la fin, arriver à une conclusion qu'on est tous des êtres humains. C'est-à-dire, c'est facile à dire, mais travailler vers la réalisation de ce but n'était pas facile du tout, parce qu'il fallait toujours chercher des dénominateurs communs avec les autres. Ils existent, bien sûr, parce qu'on est tous des êtres humains, comme je viens de le dire. Mais en même temps, les détails les problèmes quotidiens, aussi les enjeux politiques, n'aidaient pas tout à fait à la réalisation de ce but. Alors ça dépendait beaucoup du délégué, comme toujours aux Nations Unies. C'est un travail qui dépend beaucoup des capacités du délégué et de ses propres convictions. Même s'il y a des instructions de la capitale, mais le mode et la façon dont réagit le délégué même dans un contexte multilatéral fait toute la différence. Et là, vraiment, j'ai fait beaucoup d'amitiés qui ont beaucoup aidé à surmonter des problèmes, mais aussi à changer nos points de vue des deux côtés.
Vous avez vécu ce moment très important donc de cette commission pour les droits de l'homme en tant que femme. Est-ce que le fait d'être une femme au cœur de cette mission qui vous a été donnée aux Nations Unies, est-ce que ça a été important? Est-ce que ça a été même un atout?
J'ai toujours considéré être une femme comme un atout. Pas seulement pour la troisième commission, mais de tous les aspects, partout où j'ai été. Vraiment, être une femme, ça donne beaucoup de possibilités d'agir d'une manière constructive. Je crois aux capacités des femmes et je crois en leur pouvoir, pouvoir interne surtout. Les femmes sont extraordinaires comme être porteurs d'une réalisation des convictions d'une manière très douce. Et c'est comme ça qu'on réalise le mieux, qu'on arrive à peut-être convaincre les autres de nos points de vue d'une manière qui n'est pas agressive, qui est surtout basée sur une certaine logique qu'on veut travailler ensemble, arriver à construire un monde meilleur, sans violence. Ce sont nous, femmes, qui subissons les mâles des violences les plus. S'il y a une guerre, la femme est la plus touchée. C'est elle qui doit porter la famille en avant. C'est elle qui doit protéger le terrain, peut-être, quand les hommes vont se combattre. C'est elle qui subit tous les problèmes et assume la responsabilité après les conflits. Si l'on regarde, par exemple, dans les zones qui ont été les plus touchées par les conflits en Afrique, au Moyen-Orient, ce sont les femmes qui ont toujours assumé cette responsabilité de reconstruire. Et c'est pour cela peut-être que ce sont les femmes qui, je ne voudrais pas être trop féministe ici, mais vraiment, on a une autre manière de voir les choses et peut-être une autre manière de dialoguer, de réaliser nos convictions.
Alors vous venez de parler, Madame l'ambassadeur, des conséquences de conflits que les femmes doivent assumer. Est-ce que c'est le bon moment pour vous demander de nous parler de l'Égypte aujourd'hui, de comment vous voyez la situation en Égypte?
Absolument, c'est le moment, c'est l'actualité. Ça me fait plaisir de parler de la situation dans mon pays parce que c'est une situation peut-être qui aura des conséquences irréversibles, pas seulement pour l'Égypte, mais pour toute la région et peut-être pour le monde entier. Inutile de dire l'importance de l'Égypte. N'importe quel changement qui se passera en Égypte aura des influences énormes sur la région et bien sûr sur le monde. Il faut dire que en rentrant ici à Rome et en discutant avec des gens qui ont des expériences différentes, des gens normaux mais aussi des gens plus spécialisés, j'ai été un peu choquée vraiment parce que en vivant ce moment en Égypte, il y avait une réalité frappante. Que la révolution s'est déclenchée avec un cri pour la liberté. Ça n'avait rien de religieux, ça n'avait rien d'ethnique, ça ne voulait vraiment qu'établir un système démocratique, avec plus de liberté, plus de respect pour la dignité humaine. Quand je suis rentrée ici, j'ai trouvé que tout le monde craignait un système islamique, un système qui trouve comme base la religion. Et moi, j'ai toujours essayé d'expliquer que ce n'était pas ça nos demandes en Égypte. C'était tout simplement et tout court une demande pour la liberté. On a vu des scènes incroyables, extraordinaires dans la place quand, vous savez, les premiers jours de la révolution, les gens ont été attaqués par les canons d'eau. Et c'était l'heure de la prière pour les musulmans. Et ce qui est incroyable, c'est que ce sont les chrétiens qui se sont mis devant les forces des ordres pour protéger leurs confrères musulmans et dire aux agents de sécurité, mais laissez-les faire, ils ne veulent que prier. Et on va se mettre entre vous et eux pour les protéger, ce qu'ils ont fait. Et c'était vice-versa aussi. Au moment de la prière, le dimanche, les musulmans, ils ont fait une espèce de cordon humain pour protéger leurs frères chrétiens. Aussi, par exemple, on voit des photos, mais incroyables. Pour faire la prière, pour les musulmans, il faut se laver avant la prière. Celle qui versait de l'eau aux gens qui voulaient faire la prière, c'était une chrétienne qui leur versait de l'eau pour se laver avant la prière. C'est ça l'Égypte. C'est ça l'Égypte qu'on a toujours vécu et que ça serait impossible, impossible de revenir en arrière.